It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com.
Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver pour Soir Info Week-end. Nous sommes ensemble jusqu'à minuit pour vous livrer l'information, la décrypter, l'analyser, débattre également avec nos invités. Et pour vous accompagner ce soir, Maître Florence Roy, c'est avec nous, bonsoir.
Bonsoir.
À vos côtés, Elliot Maman, chroniqueur politique, bonsoir, bonsoir mon cher Elliot. Raphaël Steinville, journaliste, est également avec nous. Bonsoir,
bonsoir
mon cher
Olivier.
Raphaël. Et puis Axel Ronde est également avec nous, policier du syndicat CFTC. Jean-Marie Godard, journaliste, bonsoir, écrivain. Vous connaissez particulièrement bien les questions de sécurité, de police. Vous avez notamment écrit votre dernier ouvrage, Parole de flic, l'enquête choc. On va peut-être voir donc la une de votre livre dans un instant. Et si vous êtes avec nous, Axel Ronde et Jean-Marie Godard, c'est que parce que ce soir, pendant cette première demi-heure, nous allons prendre le temps de revenir sur les questions de trafic de drogue, sur les questions de la grande criminalité qui gangrène notre pays, mais également le phénomène de la hausse de l'ultra-violence juvénile. État des lieux, cause, nous allons donc largement y revenir, puisque l'actualité, une nouvelle fois marquée par une fusillade. Cette fusillade en Seine-Saint-Denis, dans la commune de Sevran, fusillade qui a fait un mort et 7 blessés hier soir. Les faits se sont déroulés dans un quartier bien connu des services de police, le quartier des Beaudottes. Le maire lui fustige l'économie de la drogue. Yael Benamou, on en parle ensuite.
Hier, aux alentours de 23h45, deux individus seraient arrivés sur un parking à Sevran, en Seine-Saint-Denis, à bord d'une voiture Peugeot 5008. Une fusillade éclate. Le passager de la Peugeot serait sorti de la voiture et aurait tiré à plusieurs reprises avant de prendre la fuite. 25 douilles sont retrouvées au sol. Pour le maire de la ville, il s'agit d'un règlement de compte lié au trafic de stupéfiants. Selon une source policière, 7 personnes sont blessées et un homme de 29 ans est décédé. Il a succombé à ses blessures quelques minutes après la fusillade. 3 des victimes, blessées par balles, ont été admises au centre hospitalier d'Aulnay-sous-Bois, ville voisine de Sevran. Une enquête est ouverte pour homicide volontaire et tentative d'homicide volontaire en bande organisée. Elle devra établir si cette fusillade est liée à un conflit de territoire. Sevran avait fait l'objet d'une opération antidrogue PlaceNet XXL fin mars, afin de porter un coup d'arrêt au trafic.
Alors, règlement de compte, conflit de territoire, trafic de drogue, Jean-Marie Godard, vous connaissez bien Sevran, vous connaissez bien ce qui s'y passe. Est-ce que nous pourrions parler de grand banditisme, finalement, après cette affaire ?
Alors à ce niveau-là, franchement, je ne sais pas, parce que ça dépend à quel niveau on est dans le réseau.
Oui.
Toujours est-il que là, parmi les victimes, il y a même des policiers qui pensent qu'il y a peut-être des gens qui venaient tout simplement s'approvisionner, parce qu'il y avait beaucoup de monde sur place et énormément de badauds, encore plus de badauds après la fusillade. Il y a d'ailleurs dans les trois... Parmi les blessés, il y a 3 personnes qui sont arrivées à l'hôpital d'elles-mêmes ou qui ont été conduites avant même l'arrivée des policiers. Et là, on est clairement sur une guerre de territoire, de réseau. C'est-à-dire qu'il y a... Et puis, les gens qui sont venus et qui ont tiré ne l'ont pas fait avec un pistolet à billes. Hein.
C'est quoi ? C'est de la Kalachnikov, ça ? Et ça, c'est aussi du trafic d'armes derrière ?
Oui, c'est que c'est des armes lourdes et qu'effectivement, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'armes en circulation. Et d'ailleurs, il y en a un certain nombre dans les opérations PlaceNet qui ont été récupérées, que ce soit à Sevran ou ailleurs, notamment dans l'opération PlaceNet XXL très médiatisée de Marseille.
Et justement, vous parliez de l'opération PlaceNet, puisqu'après Marseille, c'est Sevran, souvenons-nous, qui avait fait l'objet d'une opération PlaceNet XXL, c'était le 25 mars dernier. On le rappelle, ces opérations PlaceNet XXL qui ont pour but de porter un coup d'arrêt à ces trafics. Visiblement, ce n'est pas le cas, on va y revenir, mais ça montre à quel point Sevran, petite commune, 52 000 habitants, est gangrénée aussi par ces trafics. Hein.
Mais maintenant, vous avez des trafics aussi dans des villes de province par rapport auxquelles on ne s'attend pas, pas seulement dans les grosses zones urbaines. Après, le problème des opérations PlaceNet, c'est que... c'est qu'il faudrait que la présence policière, en fait, la présence de l'État soit permanente. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a fait ça, il faudrait rester sur place. Ce qui, souvent, ça veut dire qu'il faudrait des effectifs énormes si on fait ça partout. Et parce que sinon, ça va désorganiser localement tout le réseau de trafic de drogue, mais ça veut dire que vous allez déplacer les choses ailleurs. Et que ça va aussi, malheureusement, justement, provoquer des redistributions des points de deal et des différents territoires qui vont se traduire par des nouvelles fusillades pour aller attraper le point de deal particulièrement juteux de la cité d'à côté. C'est un problème, c'est que... D'ailleurs, c'est intéressant parce qu'il y avait des policiers pendant le Covid, hein, quand il y a eu le confinement, qui disaient que ça a complètement cassé la route de la drogue, l'arrivée du shit. D'ailleurs, il y avait l'office anti-stup qui avait fait une conférence de presse là-dessus en disant que ça avait complètement désorganisé le trafic qui remontait de tout le sud de l'Espagne.
Ouais.
Et, tout ça. Et il y avait des policiers qui disaient, mais sur la fin du confinement, comme tout était désorganisé et qu'il n'y avait plus personne dans la rue, enfin les gens étaient censés... rester chez eux, on aurait dû en profiter, l'État, que ce soit avec la police, avec les services publics et tout, on aurait dû en profiter le temps que le confinement soit levé pour justement réinvestir ce terrain. Profiter du fait qu'on avait tout désorganisé pour réinvestir ce terrain et ça n'a pas été fait parce qu'à l'époque, on avait d'autres préoccupations.
Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous avez suivi pendant un an, et c'est d'ailleurs l'objet de votre livre « Paroles de flic, l'enquête choc » que l'on voit à l'antenne, c'est aux éditions Fayard, pendant plusieurs mois.
Oui.
Une année même. Vous avez suivi des policiers, vous étiez avec eux dans leur véhicule, vous avez donc vécu de très près effectivement ce qu'ils vivaient face à ces trafics de drogue, face à ces trafics d'armes et ces règlements de compte. Mais avant, Axel Ronde, effectivement, ce que l'on voit à Sevran, ce qui s'est passé hier soir, Jean-Marie Godard le disait finalement, c'est tout le territoire aujourd'hui qui est touché. C'est vos collègues de toutes les régions du pays... finalement, font face à ce type de règlement de compte, ce type de trafic ?
Oui, on le voit bien. L'actualité nous le montre quasiment quotidiennement, hein, où on voit de plus en plus de règlements de compte, de plus en plus de trafic de drogue qui explose un peu partout dans tous les territoires où il n'y en avait pas. Et on voit que cette guerre, finalement, que se mènent les trafiquants entre eux, sont de plus en plus sanglantes. Hein. Là, on a pu voir à Sevran, hein, ils ont quand même vidé un chargeur entier de Kalachnikov. Hein, ça veut dire 25 cartouches. Quand on sait que c'est une arme de guerre, donc ça peut toucher un peu n'importe qui dans la zone. Hein, parce que quand vous tirez à la va-vite comme ça, vous pouvez effectivement, comme l'a rappelé M. Godard, blesser finalement soit des clients du trafic de drogue, ou soit des badauds hein, qui peuvent se balader, surtout qu'il y avait, il me semble, soit un théâtre ou quelque chose comme ça, un lieu de la culture proche de cet endroit. Donc on est vraiment dans des personnes qui dont la vie humaine n'a plus d'importance, finalement. Ils sont vraiment dans l'argent facile, tout de suite. On veut... gagner des parts de marché, finalement, c'est un petit peu profit qu'ils ont besoin, et c'est amassé. Donc c'est vrai que nous, avec les opérations PlaceNet, on a bien déstabilisé les réseaux de trafic de drogue. On continue, hein, parce que c'est pas fini, hein, et de toute façon, il y a des travaux d'enquêteurs hein, qui perdurent, hein, qui... Il ne faut pas oublier qu'on est en train de récupérer, qu'on fait ces opérations, on interpelle beaucoup de gens, mais on récupère beaucoup d'informations. D'informations pour savoir où vient la drogue, où elles vont, où elles transitent, et ça nous permet de démanteler des grosses structures. Et de plus en plus, on démantèle, soit c'est sur dans certains ports de France, on récupère des 40-50 tonnes de drogue. Hein. Et effectivement, on voit, depuis qu'on a fait ces opérations PlaceNet, beaucoup d'armements qui sont saisis, des armes de guerre, des armes lourdes. Et ça nous inquiète vraiment, parce qu'on a pu voir samedi dernier à Marseille, hein, la BAC Sud, hein, qui a été attaquée avec des armes de guerre. Hein. Donc, alors même qu'en général, ces quartiers sont plutôt pas réputés dangereux comme le Marseille Nord, hein. Donc ces fonctionnaires de police ont été confrontés à cela. Et ça, on a peur que de plus en plus, si vous voulez, comme on est en train de déstabiliser cette mafia, eh ben, va aussi se retourner contre nous avec ses armes de guerre. Donc nous, on a vraiment, donc au niveau des syndicats, on appelle à ce qu'on ait plus de moyens de protection, qu'on fasse un état des lieux, hein, et aussi au niveau de l'armement, des armes qu'il nous faut, des armes longues, hein, et qu'il faudrait que les habilitations soient finalement délivrées à l'ensemble des fonctionnaires de police, qui aient la capacité de répondre justement à ces armes de guerre. Hein. Je rappelle que c'est des armes qui sont utilisées par des terroristes, hein. On a pu le voir, hein. Il y a eu des fonctionnaires de police qui ont été tués, hein, avec Charlie Hebdo, avec ce type d'armement.
Alors ce qui est intéressant, Axel Ronde, c'est que vous employez le terme de guerre, de mafia. Le gouvernement, lui, en face, propose des opérations place nette. On voit que le vocabulaire, finalement, n'est pas un vocabulaire guerrier pour y répondre. Et pourtant, vous alertez, il nous faut pouvoir répondre, finalement, face à des gangs armés jusqu'aux dents, avec des armes de guerre. Donc, Jean-Marie Godard, vous avez suivi pendant un an ces patrouilles de policiers. Vous avez vu leur état d'esprit. Alors parfois, on se dit, dans certains quartiers, les policiers ne peuvent plus rentrer. Ce n'est pas vrai. Les policiers, en réalité, vous hochez de la tête. Alors racontez-nous, c'est ça qu'on veut entendre. C'est effectivement ce témoignage que vous avez vu avec votre regard.
En plus, je suis resté en contact avec plein d'entre eux, enfin, ouais. Voilà, qui sont devenus des amis. Il y a des quartiers où la police, en tout cas une patrouille de police secours seule qui serait appelée par quelqu'un, ne peut pas y aller. Enfin, moi, je me rappelle avoir participé à une rencontre police citoyen, police jeune dans un quartier à Marseille où il y avait beaucoup de mères de famille qui étaient présentes et qui étaient. Là où j'étais, on avait un sentiment vraiment d'abandon total. C'est-à-dire qu'à part le local associatif où on était juste en face, il y avait un point de deal avec les gars qui étaient installés dans des canapés, qui avaient mis une chicane pour ralentir les voitures qui passaient. Et voilà quoi. Et il y avait une dame notamment qui disait, moi, par exemple, il y a ma voisine de palier qui est victime de violences conjugales. Ça nous est arrivé plusieurs fois de faire le 17, d'appeler la police. Et la police nous a dit passez au commissariat le lendemain parce que on peut pas vous envoyer une patrouille. Sinon, envoyer une patrouille de trois policiers comme ça dans ce quartier-là, c'est on va se prendre des caillasses, on va se retrouver dans un guet-apens, ça va être très compliqué. Donc soit on y va avec les CRS, soit on n'y va pas. Et c'est bien le souci, quoi.
Ouais, donc c'est
parce que le problème, c'est que justement, faut pas. Parce que souvent, on donne l'image qu'il y aurait que voilà, c'est tout le quartier, c'est du trafic de drogue, c'est de la délinquance. Mais c'est une minorité qui tient le haut du pavé.
Et une minorité connue des services de police en général.
Il y a toute une population morfle, quoi, qui en subit les conséquences.
Alors justement.
Avec des familles qui ont peur pour leurs enfants, des gamins qui sont attirés d'ailleurs dans les réseaux pour devenir guetteurs, par exemple. Ça, je l'ai vu avec des policiers. Où ça leur est arrivé de ramasser des gamins de 12 ans qui se retrouvent à faire le guet dans un point de deal. Et comment ça se passe? Les gens qui tiennent le point de deal, ils sont très très sympas avec les mômes. Hein. On offre un sandwich, des bonbons. On dit tiens, est-ce que tu peux aller me chercher une canette à l'épicerie du coin? Et puis comme ça, tu vas garder la monnaie. Et puis après, c'est est-ce que tu peux me remplacer un quart d'heure? Tu nous préviens, tu cries tel truc si tu vois des. Et puis voilà. Et de fil en aiguille, il y a des gamins qui étaient ramassés par la police dans une opération de justement dans une descente où ils interpellent les gens. Où il y a des gamins de 12-13 ans qui se retrouvent guetteurs sur des points de deal et qui, en audition, ne voient pas où est le problème. Et pour eux, leur Pôle emploi, leur France Travail, c'est des annonces qui circulent sur certains réseaux Snapchat où l'ambition, c'est d'aller travailler pour le réseau de la Cisé d'à côté parce que ça rapporte plus par jour.
Voilà. C'est ça, effectivement, assez incroyable, Axel Ronde. Sevran, pour y revenir, 52 000 habitants, c'est assez peu. On imagine effectivement que les policiers connaissent ces délinquants. On parle toujours d'une minorité. Pourquoi il est si compliqué que cela d'aller chercher cette minorité qui pourrit eh bien, la vie de la majorité?
Parce qu'il faut les interpeller. Hein. Il faut les interpeller en flagrant délit. Il faut forcément leur reprocher quelque chose. On ne peut pas mettre, parce qu'on a un sentiment qu'on sait que ces personnes vont potentiellement basculer dans le trafic, on va les interpeller préventivement. Non, ça, c'est pas possible, ça n'existe pas. Maintenant, ce sont les travails d'enquêteurs qui permettent effectivement de faire des regroupements et de pouvoir démanteler ces filières localement. On en réalise quotidiennement. Hein. Il faut pas se voir. Enfin, c'est pas. la police est efficace quand même dans ce pays-là, dans notre pays. Hein. On arrive à interpeller des gens. Maintenant, après, la justice est peut-être débordée, saturée, et ne peuvent peut-être pas traiter. Ils sont obligés de prioriser finalement certaines affaires. Donc, quand ce sont des petits trafiquants, forcément, ben, on les laisse un petit peu parier. Donc, c'est pour ça que c'est la réponse avec l'amende forfaitaire est peut-être aussi une solution, mais pas que. Il faut forcément avoir tout un panel pour pouvoir mettre un terme à ce trafic de drogue. Et effectivement, nous, on essaye assez efficacement, finalement, avec les opérations PlaceNet, même si elles sont un petit peu décriées. Nous, on trouve que ces opérations, elles amènent finalement du résultat. Elles vont amener du résultat sur le long terme. Il faut attendre, parce que malheureusement, ça fait 30 ans qu'on a laissé faire, si vous voulez. On a, comme vous avez dit, pourquoi est-ce qu'on n'a pas pu réagir après Covid? Pourquoi oui. on n'a pas démantelé les trafics? Déjà, la police était désorganisée aussi, parce qu'on a été aussi touché par le Covid, hein, faut pas se mentir. Hein. Donc on a eu aussi des difficultés à se réorganiser, mais eux se sont réorganisés plus vite. Hein. De toute façon, les délinquants ont toujours un coup d'avance par rapport à nous. Ça, c'est indéniable, on le sait très bien. Et ils s'adaptent en permanence, même sur ces opérations XXL, ils vont se réadapter. Donc c'est à nous aussi de pouvoir savoir ce qui va se passer, de prévoir le coup suivant. Et c'est pour ça qu'on est en train de réétudier un petit peu ces dispositifs pour pouvoir vraiment démanteler après ces réseaux.
Maître Florence Roisse, vous connaissez particulièrement la justice, la question de la justice des mineurs. Nous entendions donc les exemples de ces guetteurs, de ces gamins de 13 ans qui sont enrôlés dans ces trafics. Aujourd'hui, effectivement, lorsqu'ils sont interpellés par la police, il ne se passe rien pour eux. Il n'y a pas de sanctions aujourd'hui.
Bien sûr que si, il y a des sanctions. Bien sûr que si, ils sont interpellés. Alors bien sûr, s'ils sont connus des services de police et de la justice, les peines sont, crescendo. Donc au départ, ce sont des mesures judiciaires, des mesures éducatives. Et puis de fil en aiguille, on monte en puissance. Donc il ne faut pas du tout croire que la justice ne fait pas son travail, ou en tout cas elle est laxiste, comme on l'entend dire ici et là.
C'est le sentiment de beaucoup,
sujet,
c'est pour ça que je vous pose la question.
Sujet, ouais. Et la police le sait, je veux dire, quoi qu'il puisse dire. Le vrai sujet, c'est qu'on a une des jeunes qui sont instrumentalisés par des réseaux, que la plupart des chefs de réseau se trouvent à l'étranger, que cet argent, il faut dire à quoi ça sert, par qui c'est fourni. Les Kalachnikovs, à qui sert cet argent? À qui profite le crime, si je puis dire? Ce sont souvent des réseaux terroristes, vous le savez. Il y a l'entrisme islamiste qui est aussi au cœur de tous ces réseaux. J'allais dire, ce dont vous parlez, c'est en bout de course. C'est-à-dire les jeunes instrumentalisés, les enfants même, à qui on promet une glace ou des bonbons pour aller donner une barrette de shit à un client. Tout cela, c'est en bout de course. Alors, bien, et puis cette jeunesse qui est totalement à l'abandon, en fait. Et donc c'est un problème à l'origine des gens qui sont aux responsabilités. Parce que comment ça se fait que cette jeunesse, elle est dans la rue, à trafiquer, à se contenter ou finalement de se résigner à ce trafic-là, alors qu'elle devrait être à l'école, alors que la société devrait les prendre en charge, alors qu'il devrait y avoir, si vous voulez, un encadrement? Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Moi, il y a des gens qui me le racontent. Il y a des gens qui ont été victimes des victimes collatérales, entre guillemets, de ce système dans les cités où des jeunes sont instrumentalisés et qui ont tout fait pour quitter ces endroits. Et c'est triste, en fait, vous savez, quand on pointe du doigt la justice, quand on dit qu'ils ne sont pas punis, mais c'est faux. C'est...
Mais justement, Elliot Maman voulait intervenir, je vous donne la parole dans un instant, mais avant, Jean-Marie Godard, on le rappelle pour les téléspectateurs qui nous rejoignent, vous avez publié notamment Parole de flics, l'enquête choc aux éditions Fayard. Vous avez suivi pendant plus d'un an la vie de policiers. Et est-ce que sur le terrain, effectivement, il y a cette réalité d'interpellation d'un individu et puis le lendemain, eh bien, il est dehors. On l'entend souvent, ça.
C'est quelque chose qui est vraiment ressenti par les policiers sur le terrain. Alors moi, j'ai pas travaillé sur la police judiciaire, j'ai vraiment travaillé sur la police du quotidien à laquelle on peut tous avoir affaire et qu'on voit dans la rue tous les jours. Alors déjà, il y avait une première chose, c'est que on fait reposer sur ce corps de police-là énormément de choses, du répressif, du social, tout. Enfin, bon, ils font énormément de choses, un peu comme les urgences à l'hôpital. Et c'est pas la police du quotidien, c'est pas police secours qui va régler le problème de la drogue dans les cités. Hein. Ça, eux, c'est vider la mer avec une petite cuillère. Ils ont pas les moyens de faire ça. Dans des commissariats, j'ai vu. Oui, ça m'est arrivé. Alors il y a des. Oui, les policiers sont assez en colère sur le côté. On interpelle quelqu'un et après on le retrouve dans la rue. Ou alors on interpelle 3 fois, 4 fois, 10 fois la même personne. Je me rappelle dans un commissariat avoir vu passer 2 gamins. C'était un soir assez tard. C'était des gamins qui s'étaient fait piquer, alors qui étaient depuis quelques heures là, avec ce qu'on appelle l'OPJ de siège ou de chaise.
C'est l'officier de police judiciaire.
C'est le policier qui centralise tous les dossiers et qui les dispatche aux effectifs, qui était en train d'appeler, de prévenir les parents, avocats qui avaient les parents au téléphone et tout. Et moi, je me disais, mais les gamins, ils doivent être catastrophés et tout. Pas du tout. C'était un frère et une sœur, 13-14 ans, morts de rire. Ils avaient piqué, je crois que c'était à peu près 270 euros de parfum dans un Sephora, mais ce n'était pas la première fois. Et l'officier de police judiciaire que je connaissais là-bas m'a dit, mais le frère, je le connais très bien. Et à chaque fois, on discute et je le mets en garde en lui disant, mais quand tu vas avoir 16 ou 17 ans, petit à petit, tu vas monter de plus en plus dans des trucs. Et à 16 ou 17 ans, tu vas te retrouver en détention, ça va tomber. Mais en attendant,
il y avait aucun impact.
Bah non, les mômes ils se marraient et puis c'était et puis le problème c'est pas que la police ou la justice. On a l'impression qu'on fait porter plein de choses à des institutions. Par exemple, il y a des tas d'endroits où l'aide sociale à l'enfance est totalement débordée. Ils ont aucun moyen. Il y avait des policiers qui me racontaient par exemple qu'il y avait des gamins qui étaient sur le chemin de la délinquance, alors qui étaient pas loin de la majorité, 16 ou 17 ans, et que la seule solution qu'il y avait, il fallait par exemple éloigner du milieu familial ou de leur quartier, et que la seule solution c'était on va trouver 3 nuitées d'hôtel sans aucun suivi à côté. Voilà quoi. Et puis ça s'arrêtait là. Donc en fait, le problème, à chaque fois, on parle soit de la police, soit de la justice, oui. Mais le problème c'est qu'il y a des tas d'acteurs en fait. Qui auraient besoin d'être rehaussés, d'avoir des moyens supplémentaires et surtout d'être beaucoup mieux coordonnés, quoi. De travailler plus ensemble, y compris l'éducation avec la police. Il y a des endroits où ça se fait, l'éducation nationale, des collèges et des lycées qui ont des échanges avec les policiers localement par rapport à des quartiers sensibles et à des jeunes qui connaissent tous très bien et où il y a un bon travail de concert avec aussi des associatifs, des élus locaux. Mais ça, il faudrait que ce soit partout. Mais ça nécessite des moyens. Toutes les mesures que Gabriel Attal a annoncées il n'y a pas longtemps, dont certaines existent déjà, toutes ces annonces du politique, et ça, c'est ressenti aussi par les policiers, c'est-à-dire qu'on balance des grands principes et tout. Pourquoi
voilà,
pas
ils sont voilà, très pour, bien, pour mais le calmer problème, l'opinion c'est... publique, peut-être non, aussi, non, mais, il y a cet effet-là.
Oui, mais le problème, c'est concrètement, qu'est-ce qu'on met derrière pour que ce soit applicable ? C'est-à-dire qu'il y a des moyens à mettre en place, quoi.
Au fond, c'est comme dans l'agriculture, il y a des annonces, mais elles ne se voient pas concrètement dans la réalité. C'est en tout cas ce que vous avez constaté.
Bah après, l'application sur le terrain, ça se voit sur la longueur. Sur le long voilà, il y a plein d'argent qu'on a donné à des associations pour développer des choses dans des quartiers. Qu'est-ce que ça a donné au final? Comment ça marche? Voilà, les éducateurs de rue, c'est pas les grands frères, hein. C'est éducateurs, c'est bac plus 3, c'est une formation, c'est voilà, tous ces jours-là, ils sont où et qu'est-ce qu'ils ont comme moyens, quels effectifs et quelle coordination et quel travail avec la police, entre la police, l'éducatif, la justice.
Nous allons aller à Bordeaux dans un instant, puisqu'il y a eu un autre drame, un jeune de 18 ans mort. Et cette fois, poignardé. Alors là, c'est un nouveau phénomène, le couteau. Et on l'a vu aussi avec la marche blanche de Matisse. Matisse qui est mort samedi dernier, lui aussi poignardé. On va s'intéresser à ce phénomène dans un instant. Mais avant, Eliott Mamman, vous souhaitiez prendre la parole.
Oui, simplement, la dimension territoriale derrière le trafic de drogue est intéressante parce qu'on comprend qu'en effet, une majorité d'habitants de ces quartiers-là reste finalement victime de ce phénomène-là. On pense par exemple à Sokaina à Marseille il y a un an qui a été tuée pendant qu'elle étudiait dans sa chambre. Dans le même temps, très naïvement, je ne peux pas m'empêcher de penser que s'il y a une dimension particulièrement territoriale au trafic de drogue, c'est parce que dans certains quartiers plus que d'autres, il peut y avoir une forme de demande qui va encourager ces trafiquants à s'implanter. D'autant que, comme Maître Rouas le rappelait très précisément à mes côtés, il y a aussi une influence parfois culturelle d'organisations endogènes extérieures à la France qui font qui déstabilisent ces quartiers-là et qui peuvent également motiver les cartels. Et donc, est-ce que vous estimez que la territorialisation de ces trafics de drogue s'explique peut-être tout de même parce qu'il y a des demandes qui ne sont pas homogènes au niveau national, ou simplement parce que c'est opportun et qu'à un moment, ils ont considéré qu'un territoire était plus facile à prendre que d'autres, parce que, comme vous le rappeliez précisément, on a presque des États souverains qui se combattent, ouais. Qui combattent pour un territoire, au vu des moyens et de la force culturelle aussi qui est déployée sur place.
Jean-Marie Godard et peut-être Axel Rond.
Pour la question géopolitique, un petit peu de l'extérieur, moi je suis pas trop, c'est pas trop mon domaine. Par contre, j'ai l'impression quand même que de la demande, il y en a partout, quoi. C'est-à-dire que, par exemple, sur le trafic, sur le
la hashish, France est le premier consommateur de drogue.
Il y en a partout. Voilà. Après, il y a des terrains d'opportunité. Très clairement, vous prenez les villes portuaires au bord de la Méditerranée, ou pas très loin de la frontière avec l'Espagne, l'Italie, tout ce qui remonte, c'est beaucoup plus simple de les acheminer là, surtout s'il y a beaucoup de demandes dans cet endroit-là, que de monter jusqu'au nord ou jusqu'à la région parisienne. C'est peut-être pour ça que, voilà, sur Marseille, il y a un gros problème avec ça et que je crois que l'année dernière, 2023, on a eu 49 morts dans des règlements de compte liés à la drogue.
Ce qu'on appelle maintenant les narcomicides, et c'est vrai qu'Axel Rond a un autre phénomène, c'est-à-dire que les dealers n'habitent pas forcément le quartier où ils dealent.
Oui,
on l'a vu. Il y a beaucoup de mouvements aussi, qui est assez neuf finalement.
Oui, ben ils se réadaptent en permanence. Hein. Dès qu'on démantèle ces points de deal, ben ils vont avoir ailleurs, ils vont essayer de reprendre d'autres secteurs. Mais aussi, il faudrait peut-être se poser la question de l'état de notre pays par rapport à cette consommation de drogue. Il y a un problème peut-être psychologie, psychiatrique de certains Français qui se réfugient finalement dans ces produits stupéfiants. Il faut peut-être savoir le pourquoi. Est-ce qu'il y a un mal-être généralisé? Est-ce qu'il faudrait peut-être aussi peut-être se poser les bonnes questions par rapport à cela? Mais il faut aussi voir que ce sont des personnes qui sont, comme je vous ai dit, dans le business, finalement, ils veulent faire de l'argent, donc ils vont trouver des marchés, des parts de marché, comme une société, finalement, un peu là où ils pourront s'implanter, parce qu'ils ont des connaissances, parce qu'ils savent que le territoire est plutôt vierge et assez simple pour s'installer. Donc c'est pour ça qu'après, il y a énormément de règlements de compte pour... c'est une mafia qui veulent finalement récupérer ces territoires ou défendre leur propre territoire. Donc on se retrouve avec malheureusement de nombreux morts et souvent maintenant ce sont des enfants qui sont finalement utilisés, qui sont finalement chefs de gang localement dans ce trafic de drogue et se retrouvent à 16-17 ans finalement à la tête d'un réseau et on les retrouve souvent poignardés, tués et ça c'est triste parce que c'est toute un pan de la jeunesse française qui commence, qui finit mal quoi et ça c'est, il faudra peut-être vraiment se poser les bonnes questions et oui j'entends bien au niveau de l'éducation, il faudra peut-être voir aussi aider faire un partenariat plus approfondi, justice, police, éducation. Et effectivement, nous, ce qu'on veut, c'est surtout des peines courtes et l'exécution des peines. Parce que le problème...
L'exécution des peines courtes et immédiates, on l'entend beaucoup, notamment pour les mineurs.
La justice a souvent la main lourde, mais malheureusement, elle n'est pas en capacité, finalement, de faire exécuter ces peines parce que les prisons sont remplies. Donc peut-être voir autre chose que la prison, je ne sais pas.
Il nous reste un peu plus de 5 minutes pour continuer à évoquer ce sujet de la délinquance, de la criminalité en France. Et je souhaitais vous montrer ce reportage avec cette autre actualité à Bordeaux où un jeune de 18 ans a été tué, là encore, mais à l'arme blanche cette fois. Cela s'est passé hier dans le quartier des Aubiers à Bordeaux. Là encore, un quartier réputé difficile. Alors les circonstances de cette mort restent encore à déterminer, une enquête est en cours, mais très vite dans l'après-midi, des échauffourées ont éclaté dans le quartier. Retour sur les faits avec Dounia Tengour.
Peu avant midi, ce vendredi, dans les quartiers des Aubiers à Bordeaux, un jeune homme de 18 ans a été mortellement blessé à l'arme blanche après avoir été touché au thorax par un autre individu.
Et à l'heure actuelle, si on n'est plus sur une affaire entre des rappeurs locaux, une altercation qui serait à la base verbale. Derrière, est-ce qu'il y a un fond de stup? Il est trop tôt pour le dire. C'est largement possible au vu du quartier.
Dans le quartier bordelais, connu pour être difficile, la mort du jeune homme a provoqué des échauffourées.
En fait, il y a eu une bagarre générale entre les défenseurs de l'un et les défenseurs de l'autre. Dans les quartiers Aubiers, ce qui est compliqué, c'est que là, il y a des rassemblements actuellement. En bas des tours, La police n'a pas forcément la possibilité d'entrer et d'aller et venir comme elle le souhaite, ou sinon ça engendre encore plus de situations négatives. Donc du coup, il est difficile de procéder aux premières investigations.
La victime était connue pour des délits de droit commun. Pour l'heure, l'auteur des coups mortels n'a toujours pas été interpellé. Une enquête pour homicide volontaire a été ouverte par le parquet.
Jean-Marie Godard, là encore un jeune de 18 ans donc tué à l'arme blanche. Ce type de drame se multiplie ces derniers mois. On l'a vu avec Matisse, il y a eu une marche blanche d'ailleurs que vous avez pu suivre sur CNews cet après-midi. Il y a eu Chemsedine à Viry-Châtillon, ouais. Bref, énormément. Thomas à Crépol, est-ce que là encore c'est un phénomène nouveau que vous observez, vous, en tant que journaliste spécialiste de ces questions de police et de sécurité?
Là, ça a l'air d'être un autre contexte que Matisse.
Ça, c'est un autre contexte.
Difficile, ça a l'air d'être là, pour le coup une histoire de règlement de compte. Je pense que c'est la police qui va démêler tout ça. Des règlements de compte entre jeunes. Alors est-ce que l'utilisation de l'arme blanche, du couteau est nouvelle? Ça, je ne saurais le dire. Mais il y a eu déjà des règlements de compte entre des jeunes, des bandes, des groupes, des rixes aussi. Avant, quand c'était pas le couteau, c'était à coup de cutter, hein, qui peut déjà faire beaucoup de dégâts. Donc, alors là, il y a eu une multiplication des attaques au couteau dernièrement. Est-ce qu'il y a une hausse? Alors là où c'est difficile à dire, c'est que par exemple les statistiques de criminalité du ministère de l'Intérieur donne des chiffres sur les agressions mais ne donne pas le mode opératoire. Donc on n'a pas de stats particulières.
Depuis 2021.
Et voilà, et c'est ça, et on l'évoque souvent, est-ce qu'il ne serait pas nécessaire effectivement d'avoir ces statistiques?
Oui, pour nous, ça nous permettrait effectivement de connaître la réalité du terrain et de savoir pouvoir apporter une réponse policière et de pouvoir multiplier les contrôles. D'ailleurs, ces contrôles qui sont souvent décriés, parce qu'on fait des contrôles d'identité, on fait des palpations de sécurité qui permettent de découvrir si oui ou non ils sont porteurs d'armes. Mais sur Bordeaux, oui. Vous avez entendu mon collègue dire qu'ils ne savent pas s'ils peuvent intervenir, il faut essayer de négocier. Mais ce que nous demandons, c'est pouvoir déployer des drones. Sauf qu'on nous oppose cela parce que c'est contraire aux libertés publiques, c'est compliqué de mettre en place des drones, il faut un arrêté préfectoral, il faut le motiver par rapport à la justice administrative, alors même que dans ces situations-là, on pourrait faire décoller un drone et on pouvait regarder ce qui se passe sur la zone et pouvoir finalement intervenir logiquement, si vous voulez, une stratégie pour pouvoir mettre un terme, pour pouvoir mettre le paquet, il faut aussi voir déployer les effectifs de police adéquates. Mais malheureusement, beaucoup d'associations, beaucoup de légalistes vont nous dire que c'est une atteinte au droit public. Donc c'est bien dommage qu'on se passe de ces technologies qui nous seraient très utiles.
Et effectivement, nous aurons l'occasion d'en débattre. Nous arrivons au terme de ce dossier donc autour des trafics de drogue, de la grande délinquance, de la criminalité. Jean-Marie Godard, un grand merci d'avoir accepté notre invitation. Axel Ronde, merci beaucoup.
Merci à vous.
Je vous rappelle, porte-parole de la CFTC.
Police. Oui, c'est ça.
Merci à tous les deux. Il est 23h, presque 23h si vous nous rejoignez sur CNews. J'allais dire Augustin Donadieu. Non, ce n'est pas Augustin Donadieu qui est là pour le Flash Info, mais bien Adrien Fontenot qui nous a rejoint. Bonsoir mon cher Adrien. Le point sur les toutes dernières actualités avec vous.
Le comité Palestine-Dauphine et Rima Hassan finalement autorisé à tenir une conférence à l'université Paris-Dauphine. La direction de l'établissement avait d'abord interdit cette prise de parole des étudiants pro-palestiniens et de la candidate LFI aux élections européennes. Mais le tribunal administratif de Paris a annulé cette interdiction ce samedi et ordonné à l'université de mettre fin, je cite, à l'atteinte de la liberté de réunion. La conférence devrait se tenir ce lundi ou à une date ultérieure déterminée entre les parties. En difficulté financière, le géant informatique français Atos a vu les créanciers et banques proposer une offre commune de refinancement. L'objectif, réduire de 3,2 milliards d'euros sa dette brute, mais aussi l'investissement de plus d'un milliard pour le maintien de son activité sur la période 2024-2025. Atos doit être l'un des piliers technologiques des Jeux de Paris cet été. Et puis Kevin Spacey dément de nouvelles accusations d'agression sexuelle. Si l'acteur américain reconnaît des relations, il refuse de s'excuser pour des choses inventées ou exagérées à son sujet. Fin de citation. Une sortie publique qui intervient juste avant la diffusion la semaine prochaine d'un documentaire où 10 hommes témoignent contre lui. L'an dernier, Kevin Spacey avait été innocenté dans un procès où 4 hommes lui reprochaient les mêmes faits.
Merci mon cher Adrien. Adrien Fontenot, que vous retrouverez pour un point complet sur toutes les actualités de la journée. Ce sera à minuit pour l'édition de la nuit. Il est 23h passé de 1 minute. Bienvenue si vous nous rejoignez sur CNews. Nous sommes ensemble jusqu'à minuit pour décrypter l'information. Pour vous accompagner ce soir, maître Florence Roisse. Bonsoir maître. À vos côtés, Elliot Maman, chroniqueur politique. Raphaël Steinville, journaliste, est également avec nous. Et Albéric Dumont nous a rejoint. Albéric Dumont, vous êtes le responsable de la sécurité privée d'Éric Zemmour, c'est bien cela ?
Alors, je suis consultant en sécurité et notre entreprise conseille effectivement le Parti Reconquête sur les questions de sécurité.
Et vous étiez justement à Ajaccio cet après-midi, puisque l'actualité a été marquée par cette prise à partie d'Éric Zemmour sur le marché d'Ajaccio. Vous nous raconterez ce qui s'est passé, ce que vous avez vu, puisque vous étiez sur place. Nous y reviendrons avec vous dans un instant. Merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. Vous revenez tout juste de l'île de Beauté. Merci à vous. Donc, mais avant, nous allons revenir sur cette révélation du Figaro qui concerne Colombe. Alors Colombe, c'est l'électrice du Rassemblement National qui a ému la gauche et elle a été poussée vers la sortie des Restos du Cœur. Alors dans une séquence vidéo diffusée sur TF1, une séquence devenue virale depuis sur les réseaux sociaux, eh bien elle témoignait, c'était le 1er mai dernier lors du meeting de Marine Le Pen. On est arrivé dans un monde de fous, il faut qu'on trouve des solutions, on a du mal à vivre, on ne peut pas payer les factures, on a les huissiers, les menaces, il n'y a pas de travail, pas d'usine. C'est ce qu'elle avait expliqué, Colombe, elle était en pleurs, elle bénéficie aujourd'hui du RSA, elle a 60 ans, elle est à la recherche d'un emploi et elle craint de perdre son logement avant sa retraite. Je ne trouve pas de travail, mais je suis bénévole au Resto du Cœur et j'aide les gens de la rue. Voilà ce qu'elle confiait à ce moment-là. Sauf qu'à un mois des élections européennes, Colombe est apparue eh bien, comme le symbole de la progression du Rassemblement national dans les classes populaires. Colombe qui avait ému, je vous le disais, jusqu'à la gauche en évoquant les raisons de son vote. Mais aujourd'hui, eh bien, figurez-vous qu'elle fait face aux conséquences de son témoignage et elle ne sera plus bénévole au Resto du Cœur à Perpignan où elle réside. C'est ce que nous révèle Le Figaro et Raphaël Steinville. Vous l'avez eu longuement au téléphone il y a quelques minutes, Colombe. Nous avons essayé de la joindre, mais elle est très, très éprouvée ce soir. C'est ce qu'elle vous a dit. Alors, de notre côté, nous avons appelé les Restos du Cœur pour essayer de comprendre. Et ils nous ont dit ce qu'ils avaient dit au Figaro au fond. Alors, pour être tout à fait complet, je vais vous le dire. Ils ont réitéré les règles de l'association. La règle, c'est la neutralité politique. Quand ils sont candidats à des élections, ils n'ont pas le droit de faire état de leur bénévolat. On n'a pas l'intention de se faire instrumentaliser par qui que ce soit. Voilà ce que fait valoir ce soir Yves Mérillon, porte-parole nationale des Restos du Cœur. Je le disais à Raphaël Steinville, Colombe, vous l'avez eu, elle est dans un état particulièrement compliqué ce soir. Qu'est-ce qu'elle vous a confié ?
C'est délicat de parler en son nom et sans la trahir, mais effectivement, Colombe, que j'ai eu de longues minutes au téléphone, d'abord me disait son incompréhension de tout ce qui pouvait lui arriver depuis qu'elle avait témoigné, exprimant finalement et partageant un avis que beaucoup de Français dans une situation similaire connaissent. Oui, elle ne comprend pas, elle ne dort plus depuis plusieurs jours et surtout elle ne comprend pas la réaction des Restos du Cœur. Elle ne comprend pas que le Figaro puisse même faire état de ses difficultés. Elle ne comprend pas que la direction parisienne des Restos du Cœur explique qu'elle aurait remis une lettre de démission alors même que c'est cette direction qui l'a sommée d'écrire cette lettre de se démissionner, de se démettre de ses mandats de bénévole. Colombe, honnêtement, pour ce que j'en ai entendu, je ne connais pas cette femme. C'était la première fois que je l'avais au téléphone. On sent surtout une immense générosité. Ça fait depuis 1988 qu'elle travaille comme bénévole au Resto du Cœur. Lorsqu'elle ne travaille pas pour les Restos du Cœur comme bénévole, elle trouve sur ses maigres revenus, elle est au RSA. Elle trouve encore le temps d'acheter des couvertures pour des personnes qui sont dans la nécessité. toute sa vie, explique-t-elle, est consacrée à aider les autres. Et donc, ce qui lui arrive aujourd'hui, ça lui est insupportable. Elle ne comprend pas la dureté, finalement, d'une direction parisienne qui ignore tout de son engagement au plus près des plus démunis. Donc, oui, bien sûr qu'elle est affectée, bien sûr qu'elle est dépassée par ce qui lui arrive. Et elle craint surtout pour elle-même. Elle est en recherche d'emploi. Elle a l'impression que aujourd'hui, ce passage, ce témoignage à la télévision va lui nuire. Et c'est presque un appel de détresse qu'elle lance parce que elle ne sait plus comment faire pour surmonter tout ça.
Que nous ne comprenons pas, Elliot Maman, c'est effectivement cette femme qui est au RSA, qui donne tout, qui est très généreuse, c'est ce que nous disait Raphaël Steinville, aujourd'hui ne peut plus être bénévole au Resto du Cœur. Pourquoi ? Parce qu'elle a été à un meeting du Rassemblement National. Ça n'a pas de sens. Pour être tout à fait juste, l'association le répète, la règle c'est la neutralité politique. Bon là, elle n'est pas candidate, Colombe, à des élections.
C'est ça qui est d'autant plus incompréhensible, c'est qu'elle s'exprimait face à un journaliste qui avait un intérêt presque sociologique quant à comprendre les raisons de sa présence à ce rassemblement du RN. Néanmoins, à aucun moment, elle n'a en effet véhiculé des éléments de langage qui pourraient être ceux du parti. Elle n'a pas fait montre d'un engagement partisan. Je ne suis d'ailleurs pas certain qu'elle soit encartée. En tout cas, il n'en a pas été fait état au cours de l'entretien qui manifestement a suscité un problème. Et d'ailleurs, c'est peut-être aussi une forme de miroir que l'on pourra avoir avec le sujet que l'on abordera tout à l'heure, parce qu'il y a eu un récit médiatique qui, de manière presque surprenante, a plutôt encouragé le sens et le propos de Colombe, puisqu'il n'y a pas eu de mépris particulier dans l'accueil de ce témoignage dans les médias, et au contraire, une forme de compréhension quant au sentiment de dépossession tant culturel qu'économique qui pouvait alimenter le vote au profit du Rassemblement National. Et c'est de ces sentiments-là que Colombe se faisait le témoin, et je trouve que la réponse des Restos du Cœur est assez déconcertante et en réalité s'avérera contre-productive pour des personnes qui en effet considèrent pouvoir conserver une forme d'hégémonie idéologique au sein d'un certain nombre d'instances représentatives, parce qu'il est absolument certain que cette décision-là va plutôt encourager le vote pour des formations politiques qui manifestement sont réprouvées.
Nous n'allons pas nous cacher derrière notre petit doigt, Florence. Le problème, c'est qu'elle était au meeting du Rassemblement National. Si elle avait été à un meeting du Parti Socialiste et si elle avait exprimé les mêmes difficultés, vraisemblablement, les Restos du Cœur ne lui auraient pas dit de partir.
Exactement. La première chose que je voudrais dire, c'est que moi, j'ai écouté son témoignage la semaine dernière, j'ai trouvé bouleversant. J'avais d'ailleurs tweeté sur ce témoignage et je me suis dit finalement si j'étais aux responsabilités aujourd'hui je serais un petit peu je serais pas très à l'aise voilà d'entendre quelqu'un qui est dans cette situation matérielle et économique et qui en vient finalement à expliquer pourquoi elle va vers entre guillemets des extrêmes. La deuxième chose que je voudrais dire c'est que je suis totalement atterrée par cette espèce de totalitarisme intellectuel qui consiste en fait aujourd'hui à être. Enfin, c'est pas récent, ceci étant, hein. C'est un certain nombre d'années. Je dirais même qu'on va peut-être vers un petit mieux. C'est qu'en fait, il faut bien penser, vous comprenez ? Si on n'est pas dans une bien-pensance, si on n'est pas du bon côté de la barre, eh bien, on est pointé du doigt. Après tout, cette dame, je ne partage pas ses idées, mais cette dame a le droit d'aller, d'être attirée par tel ou tel mouvement. Alors, on va nous dire, ah oui, mais vous regardez ce qui se passe, notamment avec la France insoumise, avec tel et tel responsable politique qui ont été convoqués pour apologie du terrorisme. Je rappellerai que je ne confonds pas la liberté d'opinion et le délit d'opinion. C'est-à-dire que quand on tient un certain type de propos, c'est normal que ça tombe sous le coup de la loi et de la loi pénale. Mais là, en l'occurrence, cette dame, très honnêtement, et un peu comme un cri du cœur, elle a dit, écoutez, voilà, elle a expliqué sa situation, elle a dit, ben voilà pourquoi je viens au meeting de Marine Le Pen, mais c'est son droit. Attendez, on est encore, entre guillemets, en démocratie, on a le droit d'avoir des idées, tout le monde ne les partage pas, mais c'est bien, c'est important aussi d'échanger. C'est important. Vous vous souvenez, la semaine dernière, quand je vous ai dit, moi, je suis d'accord avec la conférence conférence, là, je ne sais plus comment ils appellent ça, à Sciences Po, où on devait débattre plutôt que de sanctionner le town hall. Voilà. Eh bien, moi, je suis d'accord parce que je considère qu'il est toujours bon d'essayer de débattre, d'échanger et de trouver peut-être de penser contre soi-même. Voilà.
Et là, Colombe, Raphaël Steinville, peut-être pour conclure, la seule chose qu'elle avait à donner, rien de matériel, elle est au RSA, c'était de son temps pour les plus pauvres, encore plus pauvres qu'elle. C'est-à-dire que c'est particulièrement beau, d'ailleurs, de sa part. Non, mais on lui enlève ça aujourd'hui. C'est
oui,
ça.
Non, mais on sent, lorsque l'on discute avec Colombe, une générosité à toute épreuve. Oui, non seulement elle donne de son temps, parce que c'est ce qu'elle a d'abord, mais elle donne aussi, et c'est ce que je vous disais, c'est-à-dire que sur le peu de qu'elle a, elle trouve encore le moyen d'en donner encore aux autres. Elle me disait d'ailleurs, plus que son étonnement, elle me disait, mais Coluche doit se retourner dans sa tombe de voir les dirigeants des Restos du Cœur se comporter comme ça avec elle. Et oui, on ne peut être que compatissant de cette détresse extrême.
Et tout notre soutien, bien évidemment, à Colombe. Colombe, si vous nous regardez, vous êtes la bienvenue. N'hésitez pas à vous exprimer. Vous serez toujours bien accueillis, en tout cas, sur notre antenne. Nous suivrons tout cela de très près. Et les Restos du Cœur, bien évidemment, qui peuvent intervenir aussi sur notre antenne. Dans l'actualité également, cela a provoqué beaucoup de réactions tout au long de la journée. Éric Zemmour pris à partie en Corse. Alors il était de passage sur le marché d'Ajaccio à l'approche du scrutin pour les élections au Parlement européen. Et une trentaine de personnes s'en sont pris au président de Reconquête. Éric Zemmour qui a fait connaître son intention de déposer plainte. Le parquet d'Ajaccio qui a ouvert une enquête. Retour sur les faits avec Christine Aloudzi et nous en parlons ensuite.
C'est une déambulation compliquée qu'a vécu Éric Zemmour ce samedi à Ajaccio. Sur le marché de la ville, le président du parti nationaliste Reconquête était attendu par une quinzaine de personnes. Insulté de fachos, il a également été visé de jets d'eau et d'œufs. Sur ces images, Éric Zemmour réagit et semble porter un coup à cette femme. Un réflexe de légitime défense selon son entourage qui ajoute qu'à aucun moment le président du parti Reconquête n'a eu l'intention de la frapper. Après cette séquence, Éric Zemmour a rapidement réagi.
Ce sont des imbéciles violents qui croient m'intimider. Mais moi je suis comme les Corses, on ne m'intimide pas.
L'ancien candidat à l'élection présidentielle a poursuivi sa déambulation, toujours suivi par la même quinzaine de personnes tenues à distance par un cordon de CRS. Le président du parti Reconquête s'est exprimé sur les réseaux sociaux.
Ma Corse, c'est celle des Corses qui défendent leur identité, pas celle des milices communistes et des punks à chiens qui font honte aux Corses et détestent la France.
Mais l'accueil qui lui a été accordé selon les différents étals du marché était plutôt mitigé. Une enquête pour violence en réunion avec armes a été ouverte selon le procureur d'Ajaccio. En revanche, pour le moment, aucune plainte n'a été déposée concernant le coup qu'aurait porté Éric Zemmour à la femme.
Et pour en parler, Albéric Dumont est avec nous sur ce plateau. Albéric Dumont, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes prestataire sécurité pour le parti Reconquête. Vous occupez donc des questions de sécurité autour d'Éric Zemmour. En plus, rappelons-le, de la protection d'Éric Zemmour, la protection policière, puisqu'il est menacé depuis de nombreuses années. Il est donc protégé par des agents de police. Vous étiez à Ajaccio. Vous n'avez pas vu précisément la scène. Néanmoins, vous étiez au courant vous êtes occupé de la sécurité autour d'Éric Zemmour. Racontez-nous.
Alors effectivement, notre entreprise est spécialisée dans la protection des sites sensibles et des personnalités publiques. Donc nous accompagnons régulièrement des chefs d'entreprise, des journalistes, des hommes politiques, des diplomates qui sont dans des situations effectivement où ils se trouvent menacés. Éric Zemmour fait partie de ces clients-là. Et il faut rappeler que c'est quand même l'une des personnalités les plus menacées aujourd'hui dans le pays. Notamment, il bénéficiait déjà d'une protection policière lorsqu'il était journaliste, donc depuis 2015. Et cette protection s'est renforcée évidemment avec son statut de candidat à l'élection présidentielle, puis de président du parti Reconquête. Dans le cadre des élections européennes, Éric Zemmour multiplie les déplacements partout en France pour soutenir sa tête de liste Marion Maréchal. Et il était ce jour donc à Ajaccio pour une déambulation sur le marché et puis un meeting auprès des adhérents et sympathisants du parti Reconquête à Ajaccio. Je vais vous dire, l'accueil était plutôt très bon sur le marché, que ce soit les commerçants, les riverains, tout se passait bien. Et puis d'un coup, vous avez une trentaine de personnes qui se sont rassemblées, plutôt très bien organisées, puisqu'elles n'avaient été détectées en amont, j'allais dire, par personne, même si leur venue avait pu être annoncée. Ils se sont regroupés d'un coup et ils ont décidé de se jeter littéralement sur la délégation qui entourait Éric Zemmour. Éric Zemmour était présent avec son équipe de campagne, était présent avec quelques sympathisants et militants. Et là, en l'espace d'une fraction de seconde, ils se sont retrouvés sous une pluie. Alors une pluie d'insultes, d'injures, de menaces, et également une pluie de projectiles, principalement des œufs et du liquide qu'on a identifié comme
et
de l'eau.
Et vous aviez une équipe, vous, autour d'Éric Zemmour? Alors, à ce moment-là,
il y avait effectivement un dispositif qui était d'ailleurs important de police, puisque évidemment tous ces déplacements se travaillent de concert avec les différentes préfectures. Et là, ce jour-là, sur le marché, il y avait effectivement sa protection policière qui était présente, qui avait même été renforcée pour l'occasion, et puis des fonctionnaires de police qui étaient là en sécurisation de la journée. Et en quelques minutes, effectivement, la situation a dérapé, et puis Éric Zemmour a été touché par un premier projectile. La délégation, y compris ses officiers de sécurité, en ont reçu d'autres. Et puis, les manifestants ont décidé de venir au contact d'Éric Zemmour. Et c'est là qu'une femme l'a agressé physiquement par l'arrière. Alors, c'est l'image qui est en train de s'afficher là. Et donc, on la voit qui arme son bras pour venir frapper Éric Zemmour dans le dos. Et c'est à ce moment-là, effectivement, qu'il y a eu cet incident et cette nouvelle agression d'Éric Zemmour.
Donc, Éric Zemmour agressé, Éric Zemmour qui se retourne. On voit Éric Zemmour avec donc le bras droit qui est levé à ce moment-là. Donc, un réflexe, si je puis dire. C'est ce que...
À ce moment-là, Éric Zemmour effectue ce qu'on va appeler un réflexe défensif. C'est un mouvement défensif. Vous êtes une personnalité menacée. Vous vivez sous protection policière lourde depuis des années. Vous avez déjà subi plusieurs agressions. Vous avez déjà été exfiltré rapidement, violemment, par des policiers parce que vous vous retrouviez dans des situations dangereuses. Et à ce moment-là, vous êtes depuis quelques minutes sous une pluie d'insultes, d'injures, de projectiles, et là, vous prenez un coup dans le dos. Ben, le premier réflexe, c'est quoi? C'est de se dégager. Vous vous retournez, vous repoussez l'agresseur. Et à ce moment-là, Éric Zemmour me l'a confirmé, il ignore absolument que son agresseur est une femme. Mais pour moi, la question... du genre de cette personne, on dit, certains de vos confrères ont dit Éric Zemmour frappe une femme. Non, Éric Zemmour s'est dégagé d'une situation où il était en danger, où il a été victime, et il s'est dégagé assez naturellement pour pouvoir se mettre en sécurité. Et donc pour moi, il n'est pas question que de qualifier l'agresseur de militante, de femme, etc. C'est une personne qui a agressé Éric Zemmour, et Éric Zemmour, dans cette agression, s'est retrouvé dans une situation que je qualifierais de défense légitime, puisqu'en plus c'est une notion qui lui est chère.
Alors il y a une enquête qui a été ouverte. Maître Florence Roys, comment ça va se passer à présent, très concrètement ?
Ben, sûrement que l'enquête va essayer de déterminer quelles sont les responsabilités, mais indépendamment de l'enquête, c'est totalement scandaleux d'agresser comme ça un homme politique. On peut ne pas être d'accord, c'est ce que je disais tout à l'heure. D'abord, faut arrêter de dire qu'Éric Zemmour est un fasciste, c'est complètement débile. Les mots ont un sens. Enfin, ça devient insupportable d'entendre des mots comme ça complètement galvaudés. On peut ne pas partager encore une fois les points de vue des uns et des autres, mais on peut aussi respecter et écouter ce que les gens ont à dire et échanger. Je veux dire, dans ce pays, on a du mal maintenant à s'entendre, à s'écouter, à essayer de partager et de se respecter. Et il y a une violence qui sous-tend tout ça, qui est insupportable. Souvenez-vous, le président de la République avait été aussi victime, il y a 2-3 ans comme ça, d'une personne qui l'avait agressé lors d'un meeting, parce qu'il aime bien aller au contact des gens, et cette personne avait été agressive. Mais moi, je me souviens, c'est ça à quoi ça a une vingtaine d'années, que des gens comme ça sont sous protection politique, policières sont menacées. Il y a, quand j'étais jeune et qu'il y avait comme ça la gauche, la droite, les gens qui s'opposaient, il n'y avait pas cette violence. Les gens se respectaient. Alors, ils échangeaient, parfois ils échangeaient très vivement, mais il n'y avait pas, à mon souvenir en tout cas, cette violence qui aujourd'hui est prégnante dans notre
cette
société.
Cette violence, cette tension, on va y revenir avec vous, Albéric Dumont, pour entendre votre témoignage, mais ce qui est intéressant, je vais reprendre vos mots, Elliot Maman, c'est le récit qui en a été fait aujourd'hui, récit médiatique. Est-ce que selon vous, la gauche a inversé les rôles aujourd'hui ?
Oui, absolument. Je suis d'accord avec ce que Maître Roys vient de dire. Néanmoins, je ne pense pas que ceux qui qualifient Éric Zemmour de fasciste soient uniquement stupides. Il y a aussi une forme de conviction idéologique qui accompagne leur discours, puisqu'une partie de la gauche s'enferme dans ce que j'appelle une rhétorique du retour aux années 30, qui a envie de confiner dans le champ politique de l'extrême droite tout ce qui se situe à la droite d'Emmanuel Macron, ce pour garder précisément le monopole du récit. Et à cet égard, j'ai en effet été surpris de voir que certains médias de gauche, pas tous, ont fait état d'une agression unilatérale de la part d'Éric Zemmour, sans rappeler le contexte dans lequel s'est inscrit cet échange-là, dont au demeurant on ne sait pas encore grand-chose par ailleurs. Je crois de manière plus générale, et là mon commentaire est tout à fait transpartisan, que l'on ne se rend pas nécessairement compte de l'engagement physique qui est requis de la part d'un responsable politique qui se rend sur le terrain. Surtout quand on a en France une situation ubuesque, et c'est d'ailleurs cela que l'intégralité des médias devrait dénoncer et non le fait que Éric Zemmour s'est défendu, une situation ubuesque où un certain nombre de responsables politiques et de personnalités médiatiques ne peuvent pas mettre un pied en dehors de leur maison sans être accompagnés par une garde policière, qui d'ailleurs est bien le signe qu'il y a un risque public à leur encontre, puisque ce sont des policiers qui se saisissent de la sécurité de ces personnalités-là. Ils ne font pas nécessairement appel à une sécurité privée, ça peut être parallèle, mais il y a véritablement un danger public qui s'exprime à leur encontre. Et c'est donc tout de même dans ce contexte-là qu'Éric Zemmour et que d'autres responsables politiques vont faire des opérations en personne sur le terrain. Et je crois donc qu'il faut aussi avoir cette perception-là de l'engagement physique que cela représente pour ces responsables politiques.
Albéric Dumont, comment elle se traduit cette tension finalement au-delà de ce qui s'est passé aujourd'hui à Ajaccio, mais pendant cette campagne européenne autour d'Éric Zemmour, autour de ses équipes? Est-ce que vous sentez effectivement un climat particulièrement tendu et d'où viennent ces tensions sur le terrain?
Alors pour moi, ce climat ne date absolument pas des élections européennes, c'est simplement la continuité de ce qu'on vit depuis plusieurs années. Et nous, on le voit aujourd'hui. Un exemple qui va vous toucher de près, sur des manifestations de voie publique, combien de journalistes de chaînes d'information vont sur ces manifestations être accompagnés? Plus aucun. Aujourd'hui, vous avez même des sociétés qui se sont spécialisées exclusivement dans l'accompagnement de journalistes pendant les manifestations. Ce que vivent les hommes politiques sont exactement la même chose. Je pense qu'une partie de Français a perdu la connaissance, la maîtrise et le sens des mots, et ne sachant plus comment réagir face à un homme politique pour lui exprimer un désaccord qu'elle peut avoir avec lui, eh bien, on tombe dans la violence. Alors, ce que je constate également, et encore une fois, ma position est plus facile ce soir, puisque moi, je suis, entre guillemets, un technicien de la sécurité, non pas un homme politique, donc je m'arrête aux faits. Ce que je constate, c'est que systématiquement, vous avez ce que j'appelle des groupuscules qui sont souvent à l'ultra-gauche et qui ont pour mission de venir, d'ailleurs ce qu'ils appellent eux-mêmes, faire taire certains hommes politiques. Mmh. Et par cette technique de vouloir toujours terroriser soit les gens qui se rendent à des meetings par des invectives, par des menaces, par des jets de projectiles, ou alors ceux qu'ils représentent, donc c'est-à-dire les candidats, les hommes politiques qui sont effectivement en première ligne. Ce sont des méthodes qui ont toujours existé, qui s'intensifient, je le trouve, on regrette, je pense, les forces de l'ordre que je salue et que je tiens à nouveau à remercier, hein, tous ces fonctionnaires de police qui sont dédiés à la sécurité, évidemment, d'Éric Zemmour, mais également des hommes politiques en général. Ils s'en sont rendus compte, le sujet est traité. D'ailleurs, on peut saluer, je pense, ce soir, la réaction du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui effectivement a condamné l'agression et assurer que la lumière serait faite sur cette histoire, notamment dans le cadre de la plainte qui est ouverte par le parquet d'Ajaccio pour des violences aggravées en Réunion. Et c'est un phénomène qui existe, qu'on peut regretter, mais je pense qu'à un moment, il va falloir effectivement que nos hommes politiques s'en saisissent si on veut que le débat démocratique puisse se faire sans entrave, puisque là, on est clairement dans le cadre d'un candidat qui est entravé dans sa démarche électorale.
Un grand merci, Albéric Dumont, d'avoir accepté notre invitation ce soir. Je le rappelle, vous êtes expert en sécurité et notamment auprès du parti Reconquête aujourd'hui que vous encadrez pour ces élections, cette campagne des élections européennes. Merci à vous, Albéric Dumont. Peut-être un mot, Raphaël Steinville, nous ne vous avons pas entendu, vous qui êtes un fin observateur de la vie politique et de l'évolution de ces campagnes.
S'il fallait résumer ce que nous vivons en réalité depuis des années, c'est que l'on voit que le prétendu antifascisme en réalité est un fascisme. La manière dont ils s'en prennent, pas seulement d'ailleurs à Éric Zemmour, hier, quand je dis hier, voilà, des années au Rassemblement National, mais aujourd'hui.
Éric Nolot, d'ailleurs, qu'on salue, donnait une conférence aujourd'hui et s'est fait invectiver. Michel Onfray.
Michel Onfray et plus près de nous encore, enfin plus près de nous, Raphaël Glucksmann. Pensez, c'est-à-dire que on a une extension du domaine de la définition du fascisme aujourd'hui par l'extrême gauche, qui fait que tout ce qui est, vous évoquiez tout à l'heure, tout ce qui est à droite d'Emmanuel Macron est considéré comme fasciste. La vérité, c'est que tout ce qui n'est pas la France insoumise est considéré aujourd'hui comme fasciste.
Antisémitisme, l'enquête choc. À présent, une enquête publiée ce soir révèle les conséquences des attaques du 7 octobre. Et cela, eh bien, se confirme. L'antisémitisme s'est déchaîné en France depuis les attaques terroristes du Hamas en Israël. L'antisémitisme qui s'est banalisé dans les discours, mais également dans les actes. Les détails de cette enquête signée Tancrède Guillotel, nous en parlons ensuite.
76% des Français considèrent que l'antisémitisme est un phénomène répandu aujourd'hui en France, soit un chiffre en hausse de 13 points par rapport à 2022. C'est ce que révèle l'IFOP dans une enquête menée pour l'antenne française de l'American Jewish Committee et la Fondapol. Lorsqu'il s'agit des Juifs français, ils sont même 92% à penser que l'antisémitisme est répandu aujourd'hui en France. Un phénomène qui se traduit dans les faits. Sur un échantillon de 500 Français de confession juive interrogés par l'IFOP, un quart d'entre eux affirme avoir été victime d'un acte antisémite depuis le 7 octobre. Une situation que déplore Simone Rodan, la directrice de l'American Jewish Committee en Europe.
On aurait pu s'attendre à un élan durable d'empathie et de solidarité, ça s'est très vite retourné. C'est une constante, chaque tragédie contre les Juifs libère les passions antisémites.
La première cause de l'antisémitisme en France est la haine et le rejet d'Israël selon l'enquête, avant les idées islamistes, le complotisme, voire les extrêmes politiques. Autre enseignement de l'enquête, l'antisémitisme se développe fortement chez les jeunes. Aujourd'hui, 35% des moins de 25 ans estiment justifié de s'en prendre aux Juifs en raison de leur soutien réel ou supposé à Israël, contre 21% de la population en général. Une situation qui pousse une partie de la communauté juive à s'effacer dans l'espace public. 33% des Juifs français sondés disent avoir réduit ou arrêté leurs déplacements en Uber. 44% ne portent plus la kippa dans la rue.
Maître Florence Roise, comment est-ce que vous expliquez qu'il n'y a pas eu un élan durable d'empathie, de solidarité, et que cela s'est retourné aussi vite finalement?
Tout à fait. Je n'explique pas cela, je suis atterrée. Je suis atterrée en fait. C'est vraiment ce que ça m'a inspiré depuis le début. En réalité, quand on regarde les faits de façon extrêmement factuelle, sans apporter d'appréciation, on s'aperçoit qu'en fait, le 7 octobre a lieu un massacre. Un massacre sur des populations civiles par une organisation terroriste. C'est ça les faits. Il n'y a pas de subjectivité dans ce que je dis. Normalement, c'est sans Bataclan. Hein, le 7 octobre. C'est sans Bataclan. Il faut bien que les gens comprennent. Et que la jeunesse qui dit je soutiens Israël, je m'oppose à Israël, je soutiens Gaza, je soutiens le Hamas, il faut bien qu'ils comprennent que c'est sans Bataclan, que c'est ce qui s'est passé sur les terrasses. Donc comment peut-on ne pas avoir cet élan de solidarité à l'égard des Juifs, à l'égard d'Israël? Eu égard à ce qu'ils ont, enfin en tout cas à ce que la population israélienne, ce que le peuple israélien a enduré le 7 octobre, mais également ce qu'ils endurent depuis, c'est-à-dire le traumatisme, encore 200 personnes ou 150 personnes, je crois, qui sont otages. On ne sait même pas d'ailleurs qui est encore vivant exactement. Il y a eu de nombreux blessés. Et alors on vient, en fait, tout est focus sur la riposte israélienne. Voilà. On va vous dire, voilà, c'est un massacre à Gaza. Moi, j'ai entendu, j'ai même débattu sur des plateaux. On m'a dit, c'est un crime contre l'humanité quand même. C'est-à-dire que déjà, juridiquement, il faudrait que certains aillent revoir leur livre. Et puis, surtout, c'est assez hallucinant parce que c'est une guerre. C'est une guerre qui est menée dans des conditions extrêmement difficiles avec un mouvement terroriste qui a utilisé l'argent qui lui était donné par l'Europe pour construire des tunnels au lieu de faire de Gaza une ville finalement agréable à vivre et avec des universités, avec de la culture. Ce sont des kilomètres et des kilomètres de tunnels où sont cachées des armes, des populations civiles qui servent de boucliers humains. Enfin, j'en passe, tout ça a été dit et redit. Et finalement, vous apercevez que, nonobstant cette analyse qui est la plus objective qu'on puisse avoir, eh bien, il y a finalement une contestation sur la riposte israélienne. Moi, j'en déduis quoi, en fait? J'en déduis que tout cela, c'est un antisémitisme qui s'exprime, tout simplement. C'est-à-dire qu'en réalité, c'est pas Israël qui est en cause. C'est finalement, c'est l'antisémitisme qui s'exprime de cette manière, dans cette contestation.
Et ce qui est notable, Raphaël Saint-Ville, c'est que 35% des moins de 25 ans estiment justifié de s'en prendre aux Juifs en raison de leur soutien supposé à Israël, contre 20% de la population générale. Là aussi, qu'est-ce que cela révèle, effectivement, que cette jeunesse soit perméable à cet antisémitisme?
Ce sont les mêmes que l'on retrouve, disons, leur admiration pour Jean-Luc Mélenchon. Pour, donc il y a quand même un parallèle à faire, je trouve, dans cette jeunesse antisémite. Mais si je pouvais juste répondre à ce que vous disiez, maître, où vous disiez que vous étiez atterré, moi je m'étonne qu'on puisse être étonné ou atterré par les résultats de cette enquête, parce que voilà des années et des années que la France accueille des populations venant de pays qui nourrissent une détestation d'Israël, qui nourrissent pour beaucoup un antisémitisme notoire. Je pense notamment à un certain nombre de pays du Maghreb. Et aujourd'hui, on s'étonne que sur notre sol, l'antisémitisme progresse, que les Juifs se sentent menacés. Au point de devoir parfois, lorsqu'ils ils font des commandes sur Uber Eats, de changer leur prénom et leur nom de famille, de peur que la consonance de leur patronyme ne leur nuise lors de la livraison de leur nourriture. C'est ça la réalité aussi de la France, de l'absurdité qu'on est en train de vivre. Voilà des années et des années qu'on fait venir des populations qui sont biberonnées dans la haine d'Israël et des Juifs, et on s'étonnerait aujourd'hui de cette progression de l'antisémitisme. C'est ça qui m'étonne.
Une haine que nous avons observée également lors de ce blocage à Sciences Po par ces étudiants pro-palestiniens, des étudiants qui sont déterminés à poursuivre leur mouvement. Le combat, donc parti de Sciences Po, provoque beaucoup d'indignation, à commencer par celle d'Emmanuel Macron. Il a réagi ce soir et il est indigné donc par ces blocages. On regarde ce qu'a dit le président de la République dans la tribune. Je comprends très bien ce qui se passe aujourd'hui, en particulier à Gaza, bouleverse. La France appelle d'ailleurs à un cessez-le-feu immédiat, mais empêcher le débat n'a jamais aidé à la résolution d'un conflit. Voilà ce que confie le chef de l'État ce soir. En tout cas, un mouvement qui s'est étendu à de nouvelles facultés françaises, et même des lycéens, appellent à entrer dans la lutte. Ils appellent à des blocages lundi et mardi prochain. On va regarder ce sujet de Solène Boulan et nous en parlons ensuite.
Après les étudiants français, la mobilisation pour le peuple palestinien va-t-elle gagner les lycées de l'Hexagone? Sur les réseaux sociaux, l'Union syndicale lycéenne appelle au blocage des établissements.
Bloquons nos lycées pour la Palestine. Dès lundi, nous appelons au blocus des lycées pour un cessez-le-feu à Gaza et la reconnaissance de l'État palestinien. De Columbia au lycée en France, la mobilisation aura lieu.
Dans un communiqué, le syndicat précise les raisons de son appel au blocus.
L'heure est à la mobilisation générale pour stopper le génocide et les 35 000 Gazaouis tués par l'armée israélienne. Depuis le début du mouvement étudiant lancé il y a une semaine, les lycéens sont présents sur les facultés et écoles en soutien aux étudiants mobilisés. À présent, c'est à notre tour d'occuper et de bloquer nos lieux d'études.
À Sciences Po Paris, plus de 90 étudiants ont été délogés par la police hier. D'autres mobilisations ont gagné le pays, comme sur le campus de Reims, Lyon, à la Sorbonne ou encore à l'École supérieure de journalisme de Lille. Face au blocage pro-palestinien dans les universités, Matignon assure de son côté que la fermeté restera totale.
Alors Rima Hassan a promis être présente aux côtés des lycéens. Alors Elliot Maman, on va voir son tweet. Soulèvement lundi, je serai dans un de ces lycées. Cela vous a fait sourire, ce reportage, précisément quand vous avez vu ce tweet de ce syndicat de lycéens de Columbia au lycée en France, la révolution aura bien lieu.
Oui, absolument. C'est intéressant en tout cas de voir qu'ils admettent que leur activisme est de toutes pièces importé des États-Unis. Vous savez, on dit souvent et on entend régulièrement que la focalisation sur des thématiques woke serait l'objet d'une panique morale conservatrice qui voudrait nécessairement voir dans l'engagement progressiste de la jeunesse une forme de produit importé, alors qu'en réalité il y aurait quelque chose, une dynamique endogène. En l'occurrence, on voit bien que le syndicat en question lui-même explicitement reconnaît importer sa mobilisation et son mode d'action depuis les États-Unis. J'aimerais d'ailleurs savoir s'ils importent autre chose. En décembre, un professeur de l'Université de Californie avait fait un intéressant article dans le Wall Street Journal parce qu'il avait demandé à ses étudiants s'ils soutenaient le slogan « De la rivière à la mer ». Oui. Une large majorité d'entre eux avait répondu oui, environ 80%, mais la moitié d'entre eux n'avait pas été en mesure de qualifier la mer et la rivière en question. J'aimerais savoir si ces lycéens sont également dans ce cas-là. Et je trouve intéressant d'ailleurs d'avoir fait cette jonction, comme vous l'avez présenté, entre le sujet sur l'antisémitisme tout à l'heure et ces mobilisations qui prennent lieu, parce qu'il est intéressant de voir que dans les deux cas, il y a tout de même la persistance d'une trope antisémite d'un siècle à l'autre, même si, comme Raphaël Steinville le rappelait, il y a aujourd'hui une sociologie particulière dans l'antisémitisme qui n'est plus uniquement un antisémitisme d'extrême droite. En revanche, dans les deux cas, on explique que les Juifs sont victimes de leur antisémitisme parce qu'ils ont eux-mêmes suscité et provoqué les raisons pour lesquelles on s'oppose à eux. Et là, je crois que la démonstration est toute faite, parce que en effet, le regain d'antisémitisme aujourd'hui est en un sens justifié par certains du fait des actions d'Israël à Gaza. Et c'est d'ailleurs Alain Finkielkraut qui, dans une brillante interview le mois dernier pour votre journal, le Journal du Dimanche, rappelait qu'aujourd'hui, c'était au nom du « plus jamais ça » que les antisémites dressaient leur réquisitoire.
Effectivement, on va revoir ce qu'a dit Emmanuel Macron ce soir donc, dans la tribune. Je comprends très bien ce qui se passe aujourd'hui en particulier à Gaza bouleverse. La France appelle d'ailleurs un cessez-le-feu immédiat, mais empêcher le débat n'a jamais aidé à la résolution d'un conflit. Raphaël Steinville. Alors que les lycéens appellent eux aussi à bloquer les établissements scolaires, quelle réponse attendez-vous du ministère de l'Éducation nationale, du gouvernement, de l'exécutif, qui a été, on peut le dire, assez faible jusque-là?
Bah c'est ça le problème, qu'il s'agisse de l'enseignement supérieur ou l'enseignement ou l'éducation nationale, c'est que à chaque fois on a une réponse qui est assez molle, là où il faudrait être très prompt à réagir, à condamner l'antisémitisme sous-jacent de ces mobilisations. Le chef de l'État hésite, tout son gouvernement hésite, comme s'ils étaient finalement un petit peu otages, prisonniers de cette rue pour que tienne aujourd'hui la France insoumise, et avec quelques agitateurs venus de banlieue. C'est ça qui est assez incroyable. La faiblesse de l'État ne fait que renforcer le mouvement. Mais il faut pas se tromper, c'est-à-dire que lorsque Rima Hassan promet son soutien aux lycéens, ça dévoile aussi cette espèce d'agenda caché de Jean-Luc Mélenchon et de beaucoup au sein de la France insoumise, qui vise beaucoup moins finalement les élections européennes. C'est pas des lycéens de oui. 16 ou 17 ans qui iront voter au mois de juin.
Ils jouent le coup d'après,
que le coup d'après 2027, et puis les générations d'après qu'ils préparent, avec surtout la volonté de prendre possession de la gauche, de l'empêcher d'être républicaine, laïque, et là il l'emmène vers quelque chose d'extrêmement radical.
Raphaël Steinville, on le disait, c'est une minorité. Est-ce que selon vous le mois de mai c'est celui de tous les dangers, ou alors est-ce que ça révélerait effectivement une réelle faiblesse de l'État si la situation dégénère? Comment est-ce que vous voyez les choses?
Je pense que l'État aujourd'hui est très très vigilant, très inquiet aussi de ce qui se passe. On expliquait en introduction que d'autres universités s'apprêtent à recevoir Rima Hassan, que les interdictions finalement sont cassées par des tribunaux administratifs. De cette manière,
Rima Hassan qui ira, on le dit, à l'université Paris-Dauphine. Qui ne voulait pas accueillir Rima Hassan, finalement, le tribunal administratif a cassé...
Mais leur stratégie, elle est gagnante à tous les coups. Ouais. Que l'université interdise leurs conférences et ils joueront la victimisation et la censure insupportable, qu'ils soient accueillis dans ces universités, et c'est une tribune qui leur est offerte pour continuer à semer la haine à travers la France.
Voilà, on voit ce tweet Elliot Maman de Rima Hassan. L'administration de Paris-Dauphine a tenté d'interdire la tenue d'une conférence que je devais assurer le 6 mai, organisée par les étudiantes de l'université Paris-Dauphine.
Dauphine, Palestine, pardon, le tribunal administratif de Paris vient donc de suspendre l'exécution de cette décision du 22 avril. Voilà, et ils vont jouer effectivement la victimisation maintenant. C'est aussi la stratégie, on le voit.
Absolument. Alors, de manière générale, je m'oppose tout de même à la censure. Je considère que les universités devraient être un lieu ouvert. Et donc, je ne suis pas de ceux qui condamnent la censure de conférences, par exemple, données par Sylviana Kazinski ou Alain Finkielkraut, pour ensuite estimer qu'il est normal de censurer des personnalités de gauche, même s'il y a tout de même une différence. C'est qu'en l'occurrence, Rima Hassan, d'abord, a des propos en effet plus que problématiques. On l'a déjà suffisamment dit. Et par ailleurs, elle reste une personnalité politique engagée dans la vie partisane, et je ne suis pas sûr que les universités soient le lieu du débat partisan, le lieu du débat intellectuel, c'est certain. Partisan, à mon avis, il y a quand même un sujet, en plus des réserves qui ont conduit l'université à prendre cette décision. Et simplement, une dernière chose pour différencier la situation américaine avec la situation française, pour montrer que ces mobilisations-là n'ont véritablement pas lieu d'être en France. Aux États-Unis, ces mobilisations relèvent tout de même d'une problématique de politique interne, puisqu'ils contestent l'engagement de Joe Biden en faveur d'Israël, alors que la France, et ça c'est notamment particulièrement vu aux Nations Unies, a eu plutôt des votes qui ont tendu à condamner ce qu'Israël pouvait faire, voire même à voter en faveur de résolutions présentées au Conseil de sécurité de l'ONU qui ne rappelaient même pas les attentats originels du 7 octobre pour réprouver la contre-attaque israélienne. Donc je crois qu'il y a deux choses différentes, et même le rapport aux étudiants par rapport à leur institution académique n'est pas le même, parce que typiquement le tweet du comité lycéen rappelait l'origine de la contestation à Columbia, qui est donc une université membre de l'Ivy League, et les universités membres de l'Ivy League sont de véritables puissances économiques en tant que telles, et qui en effet peuvent avoir des investissements directs en Israël, ce qui n'est absolument pas le cas des universités françaises et encore moins des lycées. Et donc il n'y a véritablement aucune raison d'importer et de matérialiser cette contestation en France.
Avant de parler agriculture et de découvrir la une du JDD de demain, maître Florence Roisse sur effectivement ces étudiants qui veulent entrer dans la danse, quel est votre regard ?
Bah déjà, je plains les étudiants ou les lycéens qui ne partagent pas ces opinions, parce que là aussi, on est quand même dans un terrorisme intellectuel. Deuxièmement, je serai à la place du ministre de l'Éducation nationale. Je demanderai aux professeurs d'histoire de faire un certain nombre de cours et de rappeler quand même et de leur d'enseigner tout le contexte géopolitique, parce qu'il n'y a rien de mieux finalement que l'aspect pédagogique. Il ne s'agit pas d'interdire, il faut laisser les jeunes s'exprimer si ils ont envie de s'exprimer, mais peut-être qu'ils sont totalement ignorants et qu'ils sont comme des moutons de panurge à répéter finalement ce que leurs aînés disent, et parce que c'est de bon ton, et parce qu'ils pensent que c'est à la mode, etc. Qu'en fait il y a beaucoup d'ignorance. Et la dernière chose que je voudrais dire, je ne sais pas qui est cette dame, Rima Hassan, en fait.
Alors, c'est une vraie question. C'est une vraie question de savoir qui est derrière, quel est son parcours. Alors, moi, je n'ai pas vu d'enquête particulière pour le moment, mais c'est une question que beaucoup de gens se posent, effectivement. Oui. Je ne sais pas si Raphaël Stavi,
vous avez des... Parce qu'elle est quand même sortie du chapeau depuis...
Une juriste, elle se présente comme juriste, et elle explique d'ailleurs à loisir que sa langue, c'est la langue du droit international. Et donc, elle se réfugie derrière le droit international pour... faire de la politique.
Effectivement, il sera intéressant qu'elle nous dévoile son parcours un peu plus en détail, effectivement, Eliott Mamane.
Oui, simplement, je crois qu'il est beaucoup plus révélateur, d'ailleurs, que Rima Hassan, qui est une activiste pro-palestinienne avec les ambiguïtés que l'on connaît de longue date. Il est plus révélateur que la France insoumise ait décidé de l'intégrer en position éligible dans sa liste pour les européennes que de savoir en tant que telle, mais ça va dans le sens de ce que vous disiez, qui est Rima Hassan, parce qu'en l'occurrence, ses engagements sont les mêmes depuis qu'elle a une existence médiatique, et on ne peut pas y voir une forme de stratégie électorale, parce qu'elle vient tout juste de faire son arrivée dans la vie partisane. En revanche, le fait que la France insoumise se tourne désormais vers ce genre de figure nous enseigne beaucoup quant aux ambitions de ce parti.
Peut-être
au point d'éclipser la tête de liste Manon Aubry, qui a totalement disparu de la campagne de la France insoumise à la quasi-exclusive de Rima Hassan.
Peut-être un mot sur, on va parler d'agriculture, puisque Gabriel Attal était cet après-midi à Agen pour inaugurer un pont, mais il en a profité pour rencontrer des représentants syndicaux du monde agricole. La volonté pour le gouvernement d'acter la fin de la crise de cet hiver. Sauf que, eh bien, dans le même temps, la liste de la majorité a été dévoilée et un nom a énervé fortement les agriculteurs. C'est celui de Pascal Canfin, quatrième sur la liste. Les précisions de Corentin Alonso, nous en parlons ensuite.
Il fait partie des 30 premiers candidats sur la liste de la majorité présidentielle. Pascal Canfin, ancien membre d'Europe Écologie Les Verts, avait rejoint Emmanuel Macron il y a 5 ans lors des précédentes élections européennes. Sa présence renouvelée sur la liste de Valérie Ayé a fortement agacé Marine Le Pen.
La quatrième place de Pascal Canfin, président de la Commission Environnement et au Parlement européen et qui fut l'un des artisans du Pacte Vert, est un bras d'honneur à tous les agriculteurs.
Pour les agriculteurs qui se sont plaints dernièrement des nombreuses normes qui leur sont imposées, ce choix est incompréhensible.
Bien entendu que ce n'est pas possible d'avoir des gens comme ça à la quatrième place, mais enfin, après, je vous dis, le vote fera la différence.
On n'est pas du tout rassuré parce que c'est notamment lui qui nous a mis dans cette situation très compliquée en termes de normes et en termes d'interdiction ou de suppression de produits phyto.
La tête de liste Renaissance, elle-même issue d'une famille d'agriculteurs, y voit une attaque d'opportunité et a défendu son choix en affirmant ne rien renier du pacte vert et en être très fier.
Alors effectivement, Raphaël Steinville, Pascal Canfin, en sa qualité de président de la Commission de l'Environnement du Parlement européen, a cristallisé, on se souvient, une partie de la colère des agriculteurs. Il est considéré comme le père des normes européennes, c'est ce que dénoncent beaucoup d'exploitants. Alors d'un côté, on a le gouvernement eh bien, qui affiche sa proximité et qui annonce un paquet de mesures pour les agriculteurs. Et puis de l'autre, il y a Pascal Canfin sur la liste des européennes. Cela semble en tout cas être l'envoi d'un message assez paradoxal.
Oui, c'est le et en même temps isme macronien qui se révèle une nouvelle fois. Mais ce que je pense, c'est que au-delà des mesures que le gouvernement a annoncées, mais qui ne sont pas encore pour beaucoup effectives, ou en tout cas qui ne se traduisent pas pour les agriculteurs par une amélioration immédiate de leur revenu. Le choix de Pascal Canfin, qui est à somme toute assez logique, est vraiment très cruel pour tous les agriculteurs. Et je pense que c'est le signe que cette crise agricole n'est pas finie, n'en est finalement peut-être qu'à ses prémices, parce que ça signifie surtout que le pacte vert est toujours en cours, que c'est ce pacte vert qui est un pacte qui signe la décroissance lente et certaine de l'agriculture française, parce que c'est vraiment inscrit dans les textes. Je ne vois pas comment les agriculteurs pourraient supporter plus longtemps que finalement la macronie continue la promotion de ce pacte vert qui, pendant un temps, notamment au plus fort de la crise agricole, ils ont commencé à remettre en cause.
Donc peut-être, et Elliot Maman a un dernier mot sur ce sujet, la perspective d'une nouvelle colère des agriculteurs, puisqu'il y a eu énormément de mesures, parfois indigestes, nous les avons entendues et nous en avons parlé autour de ce plateau, mais ce que demandent aujourd'hui les agriculteurs, c'est que ces mesures, elles se voient concrètement dans la réalité du terrain. Ce n'est pas encore le cas, c'est en tout cas les témoignages que nous entendons, donc il va falloir effectivement qu'il y ait une concrétisation de ces annonces.
Par ailleurs, le ralliement de Pascal Canfin au camp de Renaissance, qui s'appelait encore En Marche à l'époque, n'est pas nouveau, puisque en 2019, il était le numéro 2 de la liste macroniste pour les élections européennes, derrière Nathalie Loiseau. Cette année, le numéro 2 est Bernard Guetta, qui, on le sait, est très engagé sur les questions internationales. Et donc, en réalité, je crois que cette espèce de trio de tête, même si Pascal Canfin est en quatrième position, signe la volonté de Renaissance de miser sur un électorat très urbain, puisque Valérie Ayé a beau rappeler qu'elle est fils d'agricultrice et qu'à ce titre, elle contrebalance le poids de Pascal Canfin, puisqu'elle est parfaitement au fait des problèmes qui peuvent toucher la population agricole. On voit donc qu'il y a un Bernard Guetta qui est particulièrement pertinent, d'ailleurs, mais qui s'exprime avant tout sur les questions internationales et notamment qui demande une aide accrue à l'Ukraine. On sait que c'est un point de clivage avec les agriculteurs qui peuvent s'inquiéter d'un certain nombre de privilèges, notamment douaniers, qui ont été accordés aux Ukrainiens depuis le début du conflit. Et évidemment, Pascal Canfin en quatrième position, qui acte ce regroupement de La République En Marche devenue Renaissance sur une dimension sociologique plutôt urbaine, un peu bobo pour le dire vite. Ce n'est pas nouveau, mais c'est très clair.
Et c'est très clair, effectivement, ce que vous nous avez analysé, mon cher Elliot. Il nous reste un peu plus de 3 minutes. Je regardais avec intérêt ce qu'on appelle l'horloge, puisque le décompte, merci, vous voyez, je ne trouve plus mes mots, il est 23h50. Le journal du dimanche, la une, la riposte face aux frères musulmans, l'offensive du chef de l'État et de Gérald Darmanin. Ils veulent donc s'attaquer aux frères musulmans. Voilà ce que nous allons découvrir demain dans le JDD, Raphaël Steinville.
Oui, c'est un numéro très riche avec non seulement Gérald Darmanin qui nous explique son plan pour et sa grande offensive contre les frères musulmans à l'initiative du chef de l'État qui a demandé à l'issue d'un conseil de défense à Gérald Darmanin de commander un rapport pour notamment à deux chercheurs pour faire l'état de la menace de l'entrisme frériste en France. Je disais que c'était un numéro très riche parce que non seulement il y a et c'est Charlotte Dornelas qui signe ce grand papier très informé sur l'état de la menace frériste, mais quand je disais très riche, c'est qu'il y a également une grande interview croisée, une grande explication entre Marion Maréchal et Éric Zemmour, dont certains se plaisaient à souligner les dissensions stratégiques. Les deux, le JDD a rassemblé les deux figures de Reconquête pour qu'ils s'expliquent. Et c'est aussi un entretien passionnant.
À découvrir demain donc dans le JDD Enquête avec un rapport prévu à l'automne.
À l'automne, exactement.
Eh bien, nous en parlerons effectivement puisque c'est une question, Maître Roy, que nous soulevons régulièrement, l'influence des frères musulmans aujourd'hui en France. Et c'est plutôt intéressant de voir que le chef de l'État et le ministre de l'Intérieur prennent cette question à bras-le-corps aujourd'hui.
Oui, ça prouve bien que le « en même temps », ça a aussi des avantages. Parce que finalement, sur ce sujet-là, ils ne négocient pas, ils sont extrêmement fermes parce qu'ils ont conscience du danger de ce mouvement des frères musulmans. J'ai d'ailleurs entendu souvent M. Darmanin en parler. Moi, à titre, j'allais dire personnel, c'est-à-dire en ma qualité d'avocate, oui. Je peux vous dire que j'ai été confrontée à des jeunes qui étaient radicalisés et dont on avait déterminé qu'ils étaient passés par des établissements qui appartenaient aux frères musulmans. Et au départ, ils ne le savaient pas. Les parents ne le savaient pas. Ils se sont inscrits dans ces écoles en ignorant la réalité de ces établissements. Et ça a eu des incidences extrêmement importantes dans leur choix et dans leur endoctrinement, parce que c'est quand même le but de tout cela. Et tout à l'heure, on parlait notamment des trafics de stupes dans les banlieues, dans les quartiers. N'oublions pas que les jeunes qui sont instrumentalisés ont souvent le choix entre le chef de gang et l'imam qui est un imam improvisé. Voilà.
Et le gouvernement qui s'attaque donc à l'influence des frères musulmans en France, nous aurons l'occasion bien évidemment d'y revenir largement demain. La riposte face aux frères musulmans, Gérald Darmanin, donc en une du journal du dimanche. Un grand merci à tous les trois d'avoir analysé, décrypté l'actualité, une actualité qui continue. L'édition de la nuit avec Adrien Fontenot, c'est tout de suite sur notre antenne. Et je vous retrouve demain à 17h, Punchline Weekend. Excellente nuit sur notre antenne, à très vite.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.